Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
Oui, enfin, c'est Roten sans flamme, mais sans Roten. Il n'y a que Jean-Louis Tour. On aurait pu appeler ça Tour sans flamme, mais ça fait bâtiment en feu.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
Une grosse production. Grosse production. Il est quasiment 19h, donc. C'est Roten sans flamme.
Ouais.
Effectivement, sans Jérôme Roten, mais avec Mathieu Bodmer que vous venez d'entendre. Ce sera comme ça pendant les 10 jours qui viennent jusqu'au 22 août. La Dream Team va succéder. Mathieu, mais également coach Courbis, qui sera là d'ailleurs tout à l'heure pour le quiz, hein, coach. Lionel Charbonnier sera là également. On vous accompagne tous les soirs de la semaine de 18h à 20h pour revenir, sur l'actu, sur la Ligue 1, sur la Coupe d'Europe également. On va lancer ce qui est, toujours un des événements du mois d'août, le tour préliminaire du club français en Ligue des Champions. On sera à Eindhoven pour PSV Monaco dans une seconde. À 19h30, faut-il redouter la saison galère pour le FC Nantes? Venez en débattre au 32-16, supporter nantais. Ce sera notre fameux ring des supporters, le moment où on vous laisse la parole au 32-16, et vous pourrez ensuite confronter votre avis à celui de Mathieu. Et puis le quiz donc à 19h45 avec coach Courbis. Deux places à gagner pour Nice-Strasbourg. Donc vous pouvez vous inscrire en envoyant top par SMS au 732-16 ou bien en appelant le 32-16 et en appuyant sur la touche 4. Voilà. Sache qu'il y aura le retour de questions, c'est abusé. C'est abusé, spécial coach Courbis. Voilà. Quand même.
On va y arriver.
Mais il a quand même le privilège d'être le doyen des membres de la Dream Team. Donc voilà. C'est normal qu'on lui fasse des questions un peu pour lui.
C'est le minimum.
Bah voilà. C'est le respect. Donc ce sera tout à l'heure, mais je pense que même avec ces questions, ça va être chaud pour coach. Hein. Mais bon. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite donc, ce soir, où qu'il soit en vacances, Jérôme va trembler.
C'est terminé! Un partout! Entre l'AS Monaco et le PSV Eindhoven.
Je pense que Wissam Ben Yedder, par exemple, va monter en puissance. J'ai trouvé décevant sur ce match-là.
Dire toi, t'es contre Monaco parce que tu les aimes pas. tu les regardes, tu dis ils sont pas beaux à voir jouer.
Il y a quelques interrogations qui escortent l'AS Monaco, mais j'ai pas été déçu pour tout dire.
Mais c'est vrai qu'il faut pas toucher Monaco avec toi. Hein.
Non, mais pas du tout.
Qu'importe le match nul obtenu difficilement à l'aller, l'ASM doit et veut s'imposer.
RMC, Roten sans flamme.
Roten s'engage.
Et oui, Jérôme qui reste supporter de l'AS Monaco. Hein. Et donc ce soir, il devrait suivre ce match du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Match retour donc de Monaco à Eindhoven sur le terrain du PSV. Il y a eu un partout à l'aller. Donc une victoire de Monaco les qualifie. Un match nul les envoie en prolongation. Et si Monaco s'en sort, derrière il faudra affronter le vainqueur de Rangers Union Saint-Gilloise. Il y a eu 2-0 pour les Belges à l'aller. Alors Monaco joue-t-il déjà sa saison ce soir? Pas forcément. Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. Pas forcément selon l'entraîneur Philippe Clément. On l'écoute.
Je pense toujours au scénario positif. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne change rien. Parce qu'il y a encore beaucoup de matchs dans le championnat, une Coupe d'Europe qui est aussi très intéressante. Naturellement, nous sommes très déterminés pour nous qualifier. C'est maintenant un match, un final. Tu peux être le meilleur pendant 90 minutes, avoir malchance et pas qualifier. Ça, c'est possible, mais ça ne peut pas changer des choses. Nous avons l'état de physique, nous avons des joueurs qui veulent toujours jouer, et ça, c'est pour moi le plus difficile.
Alors, est-ce que selon vous, Clément joue sa saison, ou est-ce qu'au contraire, Monaco joue sa saison, ou est-ce que, comme le dit Clément, c'est la vérité d'un match, derrière il y aura quand même une Coupe d'Europe, puisque Monaco serait reversé en Europa League, il reste beaucoup de matchs pour juger une saison. 32-16 pour débattre, on est en direct d'Eindhoven, avec Arnaud Valadon, l'un de nos envoyés spéciaux aux Pays-Bas. Salut Arnaud.
Salut Jean-Louis, salut Mathieu, salut à tous.
Tu vas nous parler du contexte dans une seconde, mais Mathieu, selon toi, Monaco joue sa saison, ou pas?
Non, tu peux pas jouer ta saison sur un match. On l'a vu la saison dernière, ils se sont fait éliminer par Shakhtar aussi. C'est toujours compliqué, mois d'août, des matchs comme ça, face à des équipes parfois qui sont en avance sur la préparation.
Oui, mais l'élimination contre le Shakhtar, excuse-moi de te couper Mathieu, contre le Shakhtar, elle a conditionné beaucoup de choses sur la saison. D'ailleurs, Kovac n'a sans doute pas résisté à ça, même si c'est quelques semaines après qu'il a été démis de ses fonctions. Ce moment-là, ce tour préliminaire, il change beaucoup de choses sur la saison.
Oui et non, parce qu'au final, Monaco est toujours en tour préliminaire. Donc, ils font comptablement la même saison que l'année d'avant, s'ils se retrouvent en tour, c'est-à-dire troisième place les deux saisons. Après, il y a eu des événements, la fin de l'ère Kovac et Clément qui est arrivé. Mais quand tu regardes Monaco, ils étaient au mois de février, rappelle-toi, au bout de quelques matchs, on disait Clément va être démis de ses fonctions, ça ne marche pas, etc. La fin de saison qu'ils ont pu faire et se retrouver à cette troisième place, parce qu'à quelques minutes près, ils auraient pu être même deuxième, si on se rappelle bien du scénario. Voilà, tu peux pas engager toute ta saison sur un entrepreneur parce qu'après il t'en restera un deuxième dans tous les cas. Oui. Le cursus il est vraiment long, hein. C'est pas simple parce que d'ailleurs tu auras sûrement l'équipe belge ou les Rangers qui s'ils font un retour phénoménal de l'autre côté. Et puis après tu auras des phases de poule. Mais aujourd'hui Monaco a quand même une équipe qui est équilibrée. On l'a dit hier, peut-être mieux tard, il manque un joueur. Mais en championnat, ça sera un des concurrents pour la course à la Champions League. Je pense que le plus important pour eux, c'est déjà de se qualifier tous les ans et à un moment donné de rentrer dans la phase de poule directement sans passer par le tour préliminaire.
Oui, d'accord. Donc, ce qui est le plus important, c'est le championnat. Et après, la Ligue des Champions conditionne pas forcément le reste.
Non, après, c'est un plus, hein, financièrement. Ouais, c'est pas la même chose d'aller en Europa League qu'en Champions League. On connaît tous les revenus de cette compétition. Et la plupart des joueurs qui sont venus, c'est pour aller en Champions. Mais voilà, le tirage, il est pas simple. Là, tu joues PSV, qui est une équipe qui est habituée aussi, qui a des super joueurs.
Ouais.
Qui est pas simple. On l'a vu déjà au match aller.
Ouais.
Maintenant, voilà, il reste 90 minutes ou plus pour essayer de se qualifier. Puis derrière, tu auras encore deux matchs si jamais tu passes. Donc, c'est pas simple.
Alors, justement, allons-y sur le match. Arnaud Toquier sur place, donc, à Eindhoven. Faut s'attendre à quoi? En termes d'ambiance, avec ce que tu vois autour de toi. Et en termes d'opposition aussi, le PSV à domicile est assez différent du PSV de l'extérieur.
Alors faut s'attendre à un véritable chaudron, 35 000 personnes, c'est une vraie ville de foot à Eindhoven, le PSV est le club phare, on l'oublie pas, vainqueur de la Ligue des Champions en 1988, il y a cette tradition de l'Europe, il y a cette tradition de briller, ils sont d'ailleurs un petit peu dans la même situation que l'AS Monaco, puisque la dernière fois que le PSV et Monaco ont joué la phase de poule de Ligue des Champions, c'était la saison 2018-2019, ça commence à faire, l'année dernière le PSV battu par Benfica en barrage, donc ça va être très chaud, 35 000 places déjà à 1h30 du coup d'envoi, les maillots du PSV sont déjà fortement présents dans l'assemblée. Le stade est en ville, hein. On est vraiment juste à côté de la gare, c'est très central, donc ça vit bien. C'est encore calme au niveau des champs, hein. Voilà, c'est pour l'instant assez tranquille. On vient d'avoir à l'instant le bus de l'AS Monaco arriver. Petite précision, parce que c'est vrai qu'en ces temps de responsabilité écologique, c'était un bus néerlandais. On n'a pas fait monter à vide un bus floqué du logo de l'AS Monaco. C'est peut-être un signe. Cette saison, voilà, on verra peut-être plus ces bus faire des centaines de kilomètres pour juste un trajet hôtel stade. On a vu 400, ouais. On a vu les supporters monégasques, ils seront 400. Voilà, toujours une diaspora très forte, un monégasque prêt à se déplacer. Et je peux vous dire, on a même vu quelques maillots un petit peu particuliers. On a vu avec Maxime Tillette des maillots André Araji ou même des maillots du coréen floqué du coréen Park Chu-yong. Donc il y a des vrais supporters monégasques qui ont fait le déplacement. Non, j'ai pas vu de Jérôme Roten.
Ah, s'il y a des Radji et pas de Roten, il y a un problème quand même quelque part. Hein.
Non, faudra l'expliquer à Jérôme.
Oui, c'est ça. Bon, ok. Et alors donc sur le match ce soir donc, comment tu vois les choses? Philippe Clément a dit, Mathieu hier, on est favori. Il l'a dit clairement, hein, parce que je pense que physiquement on est au-dessus. Tu partages cette vision?
Oui et non, c'est vrai qu'ils ont bien fini la semaine dernière. Maintenant, tu joues à l'extérieur, tu joues une équipe qui est habituée. À domicile, c'est jamais simple de les bouger. Je vois pas Monaco favori sur cette rencontre ce soir, en tout cas.
Ouais. C'est vrai que c'était un peu étonnant.
Ça va être un match équilibré. Les deux équipes ont des fortes individualités, ils sont capables. Mais Monaco, pour moi, est pas au-dessus du PSV.
Tiens, mais écoute les explications de l'entraîneur monégasque sur ce statut de favori.
Favori. Ça, c'est un mot intéressant pour les journaux. Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain. Et ils ont l'avantage de jouer chez eux avec leurs supporters. Nous voulons montrer que nous étions la meilleure équipe dans les deux matchs. Nous étions pendant le premier match. On essaye d'être dans le deuxième match aussi la meilleure équipe.
Voilà. Il les voit au-dessus physiquement. Mais bon, il a envie de le voir sur le terrain. Oui, c'est sûr. Parce qu'à l'aller, on l'a pas trop vu quand même, Mathieu.
Non, ça n'a pas été simple. Après, deuxième mi-temps, c'était mieux. Mais au début du match, si on se rappelle bien, il y a plusieurs situations du PSV qui ouvre la marque, mais qui peut creuser l'écart un petit peu, qui a des belles situations. Voilà. Après, encore une fois, l'extérieur, c'est pas pareil. Ça sera pas la même ambiance. Ça sera pas la même façon de jouer du PSV à domicile qu'à l'extérieur. C'est une équipe qui risque d'emballer le match avec des joueurs offensivement très, très intéressants. Maintenant, Monaco, ils sont capables de le faire. Voilà. Voir quelle équipe va être alignée. Mais même sur le banc, t'as des joueurs qui sont capables de faire des grosses différences. Le tout, c'est de pas prendre pour moi, en tout cas, un but trop vite dans cette partie. Et pourquoi pas marquer pour faire douter le PSV. Mais maintenant, avec le nouveau système, voilà, ça change beaucoup de choses aussi.
On va parler compo d'équipe dans un instant avec Arnaud. Mais d'abord, Mickaël nous rejoint, supporter de Monaco, 32-16. Salut, Mika.
Ouais, salut. Salut à tout le monde.
T'as un maillot Radji ou Roten chez toi?
Eh ben, les deux.
C'est bien.
Les deux, ouais.
C'est marrant, Radji, la cote qu'il a gardée.
Bah, c'était un gars qui mouillait le maillot. Alors, c'était pas le plus technique, c'était pas le meilleur joueur qu'on ait pu avoir. Mais par contre, lui, il avait de l'envie. Et puis, il y a eu des saisons où ça nous a fait un peu défaut. Donc, d'avoir un joueur comme ça, c'était rafraîchissant, je dirais.
Ouais, ouais. Et alors, le match ce soir, tu le vois comment? Tu penses que Monaco joue sa saison ce soir?
Alors, joue sa saison, je dirais peut-être pas ça, parce qu'on a vu que l'an dernier, on s'était mis une grosse pression. Et l'élimination nous a coûté toute la première partie de saison en fait. Donc cette année, on est un peu plus serein peut-être, je dirais bizarrement. On a l'impression d'être prêt, même si le match aller c'était pas forcément exceptionnel. Maintenant, on a repris très tôt avec une grosse prépa physique justement pour se préparer sur tout ça. Et le match contre Strasbourg avec l'équipe bis, je dirais, nous a un peu rassurés. Et maintenant, à nous de faire la différence. J'espère que Ben Yedder et Voland seront au niveau, contrairement au match aller. Et attention à la douche froide, mais si tout va bien, normalement, ça devrait pouvoir passer.
Alors, est-ce qu'on a des tendances sur la compo d'équipe, Arnaud?
On a même mieux, Jean-Louis. On a les compos qui viennent à l'instant de tomber sur le site de l'UEFA, tu sais. L'UEFA, c'est ils prennent un peu plus de temps que la Ligue française. Et petite surprise avec Maxime Tillet, c'est quasi les mêmes 11 à la fois côté PSV et à la fois côté Monaco. Donc ça donne nouvelle dans les buts.
Vous n'avez pas ouvert la fiche du match aller.
Non, on a, c'est ce que Maxime m'a dit. On est sur le site de l'UEFA, sur les compos. Donc Vanderson, Maripán, Dizazi et Jacobs en défense. On retrouve Matadzo, Fofana à la récupération. Minamino qui revient. Vous savez, il était un petit peu blessé à Strasbourg. Il n'avait pas joué. Et il est titulaire, vraisemblablement à droite. Golovin à gauche. Et Voland et Ben Yedder de retour. Ben Yedder capitaine, ménager à Strasbourg. Philippe Clément avait effectué plus de 6 changements. Donc pas de crépa Diata qui, avec son magnifique but, on disait peut-être qu'il allait pouvoir se faire une place dans le 11. Et côté PSV, on parle également...
Et Caillou Henrique, il ne devait pas revenir. C'est toujours Jacobs qui joue.
Ouais, c'est toujours Jacobs, Caillou Henrique, qui était effectivement annoncé potentiellement titulaire. Il revenait, il était apte, il était dans le groupe. Mais selon ce que l'UEFA nous communique à l'instant, il est sur le banc, tout comme Brahim Mbolo, Diata, Aguilar aussi sur le banc. Et côté PSV, on reste également avec un 4-3-3, pas forcément plus offensif. Ce week-end, lors de la victoire du PSV contre le promu MN 4-1, on avait vu que Xavi Simons titularisé en position de 10. Visiblement, on reste avec 3 milieux, dont tu points de base. Avec Thiel, pas forcément de numéro 10, et 3 attaquants, Luke de Jong, Gakpo, attention à lui, il a marqué un doublé, notamment un des atouts majeurs offensifs du PSV, et Sebari à droite pour les 3 attaquants, et Walter Benitez évidemment dans la cage.
Mathieu, t'en penses quoi de cette compo monégasque?
C'est compo logique pour moi. Tu parlais de Diata, maintenant il ne faut pas oublier qu'il revient d'une longue blessure, pour aussi le cramer, lui mettre trop de temps de jeu dès le début de saison. Ouais, il a fait un bon match ce week-end. Après, il est capable de rentrer en cours de jeu. Ça laisse quand même des belles perspectives sur le banc de touche aussi pour pouvoir faire la différence en cours de match.
Moi, c'est Caillou Henrique qui m'étonne, mais il est peut-être pas revenu vraiment du Covid. Il avait Caillou Henrique.
Ouais, je pense qu'il est pas prêt, sinon il aurait joué. Ouais. C'est un élément important de cette équipe. Avec un profil différent de Jacobs, qui doit être un peu plus contre-attaquant par rapport à ses qualités athlétiques. Lui est capable de faire les efforts, de les répéter à haute intensité. Ouais. Caillou Henrique, avec le ballon, c'est un peu plus de certitude. Mais s'il n'est pas là, oui, c'est qu'il doit pas être à 100%.
Et au moins, tu sais quand même, enfin, je trouve que c'est une des forces de Monaco, c'est le banc de touche. Entre ce que tu as vu à Strasbourg et dans le passé des différents joueurs, tu sais qu'il y a un moment où, quand tu lanceras les remplaçants, tu pourras aussi être toujours performant.
Oui, tu perds quasiment pas au change avec des profils complètement différents. On parle d'Embolo, on peut parler de Diop, on peut parler de Crépin Diata et ainsi de suite. Ça amène quand même des bons profils offensivement avec des joueurs capables de faire la différence dans les petits espaces. Mbolo, il peut garder le ballon un peu plus haut, il peut prendre la profondeur. Voilà, t'as quand même un effectif de grande qualité. On l'avait dit, offensivement, beaucoup de joueurs, peut-être même un peu trop.
Ouais.
Mais voilà, c'est
justement ce soir-là, ça peut être important. Vu la compo, il n'y a pas un petit manque dans la profondeur? En plus, t'es à l'extérieur, t'as pas beaucoup de joueurs qui se projettent là, non?
Non, c'est vrai que Ben Yedder est capable de le faire dans les 20-25 derniers mètres sur des petits appels en profondeur court, pas obligatoirement si la défense adverse joue autre. Mais parce que je pense que Monaco veut avoir un peu de possession et peut-être terminer justement le travail sur les 25 dernières minutes.
Mickaël, t'inspires quoi cette compo? Ça te plaît?
Ouais, bah, je pense que c'est un peu tout comme vous, en fait, un peu surpris par Caio Henrique, mais effectivement, il est peut-être pas prêt. Après, Jacobs a l'avantage qu'il est vraiment rapide et on a une défense plutôt lente, donc ça peut compenser ça aussi. Et après, sinon, je vous rejoins, je pense que avec un bon coaching et tous les joueurs offensifs qui peuvent rentrer en deuxième mi-temps, ça peut faire la différence.
Mickaël, merci et bon match ce soir.
Merci beaucoup.
Allez, à très vite sur RMC. On donnera la parole à Tom, autre supporter monégasque, dans une seconde. On continue de lancer la soirée et le match de Monaco sur le terrain du PSV dans une seconde. On donnera les infos mercato du jour également dont on n'a pas pu parler. Il y a une grosse vente à Lille, notamment, qui a été officialisée. Et puis on ira à Marignane, à l'aéroport à Marseille, où les supporters sont en train de se rassembler pour accueillir Alexis Sanchez. À tout de suite sur RMC dans Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
19h15 en ce mardi soir dans Rotten sans flamme, sans Jérôme Rotten mais avec Mathieu Bodmer. On parlera de Nantes à 19h30 dans le ring des supporters. Faut-il redouter la saison galère pour le FC Nantes? Plusieurs arguments pour cela. 32-16 supporters de Nantes pour en parler. Pierre-Yves Leroux sera avec nous, notre correspondant dans l'Ouest, tout à l'heure. Le quiz également à 19h45. Mais pour l'instant, on est sur Monaco. Les Monégasques jouent-ils déjà leur saison ce soir? Déplacement à Eindhoven face au PSV en troisième tour préliminaire. Retour de Ligue des Champions. Il y a eu un partout à l'aller. Si Monaco passe, il y a encore une confrontation en barrage face au vainqueur de Rangers Union Saint-Gilloise. Et on va donner la parole à Tom qui nous rejoint au 32-16, supporter de Monaco. Salut Tom.
Salut.
Alors,
salut l'équipe.
Pour toi, au contraire de ce qu'on entend depuis tout à l'heure, Monaco joue sa saison ce soir.
Moi, effectivement, pour moi, on joue la saison ce soir. Pourquoi? Parce que ce soir, si on s'incline face au PSV, on s'assure d'avoir un mercato qui ne sera pas abouti, dans le sens où on a des recrues au milieu de terrain qui, je pense, sont conditionnées à cette qualification. Pareil en défense. On parlait d'Eric Bailly il n'y a pas très longtemps de ça. Donc, effectivement, si ce soir on s'incline, à mon avis, l'équipe va rester telle quelle avec quelques petites retouches, avec peut-être des jeunes par-ci par-là, mais rien de concret. Et on s'assure saison compliquée. En tout cas, on va faire la même chose que l'année dernière. Peut-être milieu de tableau pour remonter sur la fin, mais on va pas s'assurer une qualification en Champions League l'année prochaine. C'est pas l'Europa. Monaco ne peut pas jouer l'Europa League. On veut jouer la Champions League à chaque fois. S'assurer avec un petit mercato de Champions League, je ne pense pas que ça va passer, surtout avec le niveau qui monte, Nice qui monte, Paris qui est monté, Marseille qui va monter, encore plus compliqué que l'année dernière.
Oui, alors c'est sûr que ça joue sur la fin de mercato, même si il y a encore le barrage derrière et il y a peu de temps après sur la fin du mercato, Mathieu.
Oui, t'as peu de temps. Après, sur la partie financière, je suis d'accord. Une qualification en Champions, c'est complètement différent de l'Europa League. Ça permet d'avoir plus de moyens et d'attirer même des joueurs, peut-être d'un calibre différent à si tu fais que le championnat de l'Europa League. Maintenant, pour Monaco, je le redis, moi, toute la saison ne dépend pas de ce soir. Mmh. Voilà, tu peux avoir une fin de mercato peut-être plus excitante, mais quand tu fais Minamino, Mbolo et que tu gardes quand même tes meilleurs joueurs, hormis le départ de Tchouaméni, mais qui était plus ou moins acté, si tu arrives pour moi à prendre un quatrième défenseur pour venir derrière Badiachil notamment, et essayer de remplacer par quelqu'un au milieu de terrain, tu auras une équipe qui sera encore une fois compétitive.
Ouais, non, ça c'est clair. Tom, merci, tu voulais ajouter un truc ou c'est bon, t'es chaud pour ce soir?
Simplement, là on perd Tchouaméni cet été. On ne le remplace pas, on n'a pas un remplacement d'envergure en fait. Derrière, on va piocher avec des jeunes de la formation, avec Matazzo par exemple. Mais on n'a personne pour le remplacer. On a un énorme manque au milieu. La défense, je rejoins l'auditeur précédent qui disait effectivement qu'elle était très lente. Et c'est vrai qu'on subit en fait à chaque fois des attaques derrière. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Moi, je ne vois pas une saison de qualité si on ne recrute pas des joueurs d'envergure. Les joueurs d'envergure n'arrivent pas si on ne se qualifie pas en Champions League. Et c'est pareil, la Champions League, elle amène pas le même budget non plus au club. Donc l'Europa League, d'accord, mais le budget derrière, ça n'en ressemble pas. Et si je peux juste passer un dernier message d'infrastructure, on va dire, par rapport à l'AS Monaco, on veut jouer la Champions League, mais au niveau du stade, on a un stade qui dépérit d'année en année et le club et la principauté ne veut pas mettre d'argent sur le stade. Et ça, par contre, c'est vraiment un manquement et une image. La AS Monaco qui joue sur son image, là-dessus, vraiment, on est ridicule. Voilà, c'était simplement ce message-là que je voulais passer. Mais en tout cas, il faut gagner ce soir pour s'assurer une belle saison.
Et bah, ok, merci. Tom. Merci d'être venu au 32-16. Le message est passé. Et
merci
écoute,
beaucoup.
Si tu veux rappeler, tu peux rappeler ce soir dans l'after, hein, puisque là, il y a une grande soirée autour de la rencontre. L'avant-match à 20h avec Nico Villas. Le match en intégralité avec Arnaud Valadon, Maxime Tillette. Et le débrief ensuite jusqu'à minuit dans l'after. Alors, j'ai quelques infos mercato, Mathieu, que tu vas pouvoir commenter. Donc, je parlais d'une grosse vente pour Lille, puisqu'Everton a officialisé aujourd'hui l'arrivée d'Amadou Onana. On parle de 40 millions d'euros hein, pour le transfert.
C'est pas mal.
Ouais.
C'est une belle plus-value pour une saison. Il n'a pas toujours joué titulaire.
Et en plus,
un super coup de la part des dirigeants lillois. Voilà, après, quand ils ont été cherchés, je pense qu'ils savaient la valeur qu'il avait déjà sur le marché, que c'était qu'une étape pour lui et qu'il avait un profil taillé pour la Première Ligue. Parce que beaucoup le comparent notamment à Yaya Touré.
Ouais.
Toute proportion gardée. Mais voilà, c'est un gros coup de la part des dirigeants lillois, voir comment maintenant ils vont utiliser cet argent.
C'est toujours étonnant, là. Il y a une part de spéculation quand même, parce que le joueur t'a pas amené beaucoup de choses sportivement. Tu disais, il a peu joué l'année dernière, et pourtant, t'arrives quand même à en faire une plus-value, à faire une belle vente. Parfois, on déconnecte un peu le sportif du financier.
Parce que c'est un potentiel. C'est un jeune joueur, 21, 22 ans, il est 2000, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui a déjà une expérience comme du haut niveau, qui a fait quelques matchs intéressants avec le LOSC. Maintenant, dès que tu as les clubs anglais qui rentrent aussi, souvent ça dérègle un petit peu le marché sur des clubs que nous, peut-être, on considère pas comme gros clubs en Angleterre,
ouais.
Mais qui ont quand même une manne financière qui est différente de ce qu'on peut voir en France.
Ouais, ouais. Alors, toujours en France, donc, y a plusieurs clubs qui sont intéressés par Fabien Santonze, le latéral du FC Metz. On parle même de deux clubs français, Lyon et Rennes. Et de deux clubs espagnols, l'Atlético et Villarreal, pour lui, 26 ans. Voilà, et Metz serait prêt à le laisser partir avec un prêt avec option d'achat. C'est nos confrères de Foot Mercato qui parlent de cette info. C'est une bonne pioche, Fabien Santonze.
Oui, moi j'aime bien. Moi j'aime bien le joueur. Après, voir à Lyon, je pense que ça peut être en doublure de Malo Gusto.
Ouais.
À Rennes, peut-être dans un profil un peu différent, en attendant de voir la situation de Traoré.
Ouais.
Et l'Espagne, ben, c'est encore un autre niveau. Si c'est des clubs cités qui a quelque chose à faire là-bas, pourquoi pas tenter l'aventure à l'étranger pour lui et aller dans des gros clubs qui jouent la Coupe d'Europe aussi.
Tu le sais, il y a quelque chose qui est très scruté au PSG lors de cette intersaison, ce sont les départs. Est-ce que Luis Campos va être capable de faire partir certains joueurs? West Ham aurait transmis une offre au PSG pour Thilo Kehrer. C'est Sky Sport qui sort ça. Kehrer, il lui reste un an de contrat. Et voilà, on n'a pas le montant en tête. On ne sait pas si ça va se faire, mais visiblement, il y aurait un intérêt de West Ham. Faut sauter sur l'occasion.
Oui, il faut essayer de trouver une porte de sortie à la fin du contrat, sinon après le joueur est libre. Il avait recruté quand même assez cher à l'époque, 35 ou 37 millions d'euros de mémoire. Voilà, si t'as une offre cohérente, je pense qu'il faut pas hésiter à le vendre, à faire des concessions un peu financières, parce que il jouera pas ou peu dans cet effectif du PSG cette saison.
Ouais. Et on en parlait tout à l'heure en première heure, hein, vous l'aurez en podcast d'ici quelques minutes, mais on parlait de Paredes à la Juve, ça pourrait aussi s'accélérer dans les jours qui viennent. Et toujours, puisqu'on est à l'étranger, on parlait de West Ham, alors à Chelsea, peut-être une nouvelle offre bientôt pour Wesley Fofana, qui pourrait devenir l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire si le transfert venait à se faire. Là aussi, trajectoire étonnante pour Fofana. Hein.
Oui, après, bon, il avait déjà été acheté cher par Leicester à l'époque, justement sur un potentiel.
Ouais.
Mais ce qu'il a fait en Angleterre avant d'être blessé depuis son retour de blessure, c'est du très haut niveau. Et je pense que tout le monde l'a vu en Angleterre. Là, tu paries sur un jeune défenseur qui est capable de faire beaucoup de choses, de relancer, de défendre un contre un, bon de la tête, qui est capable de prendre la profondeur, qui aime défendre. Ça aussi, c'est important. Et pour le championnat anglais, je pense qu'ils sont... Ils sont pas fous. Après, financièrement, je le dis encore une fois, ils sont capables de faire des choses que nous, on n'imagine même pas.
Ouais, bien sûr. Et puis, alors, il y a énormément d'infos qui circulent autour du Barça. Donc, bon, on va essayer de rester assez prudent quand même sur tout ce qui se dit. Visiblement, ce qui bruisse en ce moment, c'est un accord pour Bernardo Silva, pour l'arrivée du joueur de Manchester City, pour une somme autour de 80 millions d'euros. Mais bon, comme ils n'arrivent pas à inscrire certains joueurs, il faut voir comment ils arriveront à se sortir de ça. Enfin, je sais pas, tous les jours, on entend un nouveau joueur.
Ils font de la magie.
On entend la dette, on entend qu'ils ne peuvent pas inscrire de joueurs et pourtant, ils enchaînent les recrues. Bon.
Mais je suis content parce qu'il y a quelques mois, on avait parlé d'Ousmane Dembélé, il a prolongé. T'empêches, j'en avais parlé.
Ouais, bien sûr. Il a prolongé. Ça a été un long feuilleton aussi, mais il a prolongé. Mais bon, ça après, forcément, t'es un bien informé. Tous les joueurs du Jubilé Bonne Mère, t'as les infos quand même. Hein. Il va faire quoi, Ludovic Blas, d'ailleurs?
Bonne question.
Non, mais on va en parler dans un instant avec Pierre-Yves Leroux à Nantes. Et oui, Ludovic Blas fait partie des stars du Jubilé Bonnemère. En plus de Mathieu, bien sûr.
Oui, il y en avait plein d'autres. Hein.
Ouais,
il y a 8 tours dans les buts.
Ouais,
quel niveau
ça.
Incroyable.
Ah, mais bon,
t'es meilleur que sortir de gardien pro.
Tu m'as promis un contrat, j'attends toujours.
Je t'ai pas dit dans quel club.
Ouais, c'est vrai, mais je suis toujours au média, tu sais, du coup. Ça a un peu bougé.
C'est déjà bien.
Ouais, c'est déjà bien. Les infos mercato sont toutes sur rmcsport.fr, bien sûr. Hein, vous pouvez retrouver tout ça. Il y a même des infos sur le HAF parfois qui tombent sur notre site internet. Hein, voilà. Je sais pas s'il y a. Il y a un gros coup là en préparation. Là, il y a une annonce à faire, peut-être, Mathieu.
Non, pas encore. On travaille toute la journée encore, et puis ce soir.
Très bien. Voilà, donc supporter à vrai, on est désolé. Il n'y a pas d'infos là, de la part de Mathieu, mais bon.
Bientôt.
Suivez le site du club, ça peut tomber à n'importe quel moment, hein, grâce à Mathieu et à toute l'équipe qui bosse autour de lui, évidemment.
Merci.
Dans une seconde, le FC Nantes. Faut-il redouter la saison de galère? On vous donne la parole, supporter nantais, au 32-16, et on sera à Marignane à l'aéroport où les supporters sont en train d'arriver, les supporters marseillais, pour acclamer l'arrivée d'Alexis Sanchez. À tout de suite dans Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
19h27, c'est Rotten sans flamme sur RMC avec Mathieu Bonnemère qui chauffe la place en attendant le 22 août et le retour de Jérôme Rotten pour la rentrée avec toute l'équipe autour de lui. Des nouveautés, des surprises, tout ça sera annoncé bien sûr autour du 22 août. Et peut-être que vous avez des habitudes différentes parce que vous êtes en vacances, c'est le mois d'août, vous rentrez peut-être de la plage et c'est la première fois que vous écoutez RMC à cette heure-là. Bah, sachez que c'est comme ça tout au long de l'année, de 18h à 20h, des anciens joueurs qui débattent autour du foot. Mathieu est là, coach Courbis sera là cette semaine, Lionel Charbonnier, et puis autour de Jérôme toute l'année, Manu Petit, Jean-Michel Larquet, Pascal Olmeta sont là également pour débattre. On passe de bons moments avec en plus Julien Cazard, qui fait son Cazard enchaîné à 18h45 et qui ensuite fait le quiz à 19h45. Alors le quiz sera là sans Julien tout à l'heure, avec quand même un beau cadeau, deux places pour Nice-Strasbourg à gagner. C'est samedi à 17h pour la deuxième journée de Ligue 1. Pour vous inscrire, vous envoyez le mot code TOP, T-O-P par SMS au 732-16, ou bien vous appelez le 32-16 et vous appuyez sur la touche 4. Après, vous ferez équipe soit avec Mathieu, soit avec coach Courbis, donc, qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis si vous gagnez ces deux places donc pour Nice-Strasbourg. Avant d'aller à Marignane, à l'aéroport de Marseille, et avant de parler de Nantes, j'ai oublié quand même une info importante sur le point de vue du mercato. Mathieu, c'est Timo Werner qui retourne à Leipzig. L'a officialisé lui-même, il l'a annoncé. On parle de 20 millions d'euros pour le retour de Werner donc dans le club où il a explosé. Ce qui solde son échec à Chelsea. Hein.
Oui, c'était compliqué pour lui. Il avait mis de gros espoirs à Leipzig dans un championnat différent de la première ligue, parce qu'il y a beaucoup de transitions en Allemagne et c'est un championnat qui correspond bien. Voilà, il rentre chez lui dans une équipe qu'il connaît, dans un club qu'il connaît. Je pense que c'est une bonne opération pour Leipzig et pour lui.
Dans ces cas-là, tu retournes dans le club où t'as explosé, ou est-ce qu'il vaut mieux pas tenter autre chose ailleurs? Est-ce que ça fait pas un peu quand même, je sais pas, constat d'échec? Bon, en même temps, pour te relancer, c'est peut-être l'idéal, hein. T'as les marques.
Non,
et
mais
tout.
Après, je pense pas que le Bayern se soit positionné sur lui. Puis après, t'as le Bayern, t'as Dortmund et Leipzig. Dortmund vient de faire signer Modeste, ils ont fait signer Aller aussi. Bayern a pris Sadio Mané et Mathis Tel. Voilà, il restait Leipzig, ils le connaissent bien, on lui connaît bien la maison, je pense que l'adaptation va être plus rapide.
Bon, ok. Je vous rappelle les infos sur rmcsport.fr, on enchaîne avec le FC Nantes.
RMC, Rotten sans flamme.
Le ring des supporters.
Alors, faut-il redouter la saison galère pour les Nantais, ou est-ce que les doutes qu'on entend depuis quelques semaines ne sont pas exagérés? On vous pose la question et vous allez pouvoir en débattre au 32-16 supporters nantais. Il y a pas mal de réticences, et ce malgré la bonne saison dernière, hein, et la victoire en Coupe de France. Plusieurs supporters pointent du doigt le mercato qui peut décevoir. La relation entre Comboire et Kita également, on sait pas trop ce que ça va donner cette saison. Il y a en plus la Coupe d'Europe qui pourrait pomper de l'énergie. Alors, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Pierre-Yves Leroux nous rejoint, notre correspondant dans l'Ouest. Salut Pierre-Yves.
Je ne suis pas allé à l'aéroport de Nantes, on m'a dit qu'il n'y avait personne.
Non, il n'y a pas de recrue encore.
Voilà.
Non, mais bon. Je ne sais pas, il était sur Milik, Valdemar Kita au début de Mercato.
Il y a longtemps déjà, ouais.
Ça c'est fini, ouais. Visiblement.
Oui.
C'était un rêve.
D'actualité.
Ouais, c'est ça. En revanche, il y aura une belle pelouse, non?
Oui, pour la Coupe de pelouse, j'ai pas eu le droit de la fouler tout à l'heure, mais je m'en suis approché. On n'a pas le droit de marcher dessus parce que elle est très récente. Donc les joueurs pourront y aller demain pour un échauffement léger et ça sera officiellement le terrain pour Nantes-Lille. Mais c'est vrai que comme
je parle de ça parce qu'aujourd'hui t'as assisté aux présentations autour de cette pelouse.
Tous les travaux sont réalisés effectivement pour être aux normes au niveau des matchs de l'UEFA. Puis il y a aussi la Coupe du Monde de rugby qui se rapproche. Ça sera l'année prochaine. Il y aura aussi les Jeux Olympiques. Et donc là, il y avait une urgence, puisque effectivement, l'arrivée en Coupe d'Europe, le retour du FC Nantes n'était pas forcément prévu. Donc il y a quelques exigences au niveau du cahier des charges de l'instance européenne, et notamment la billetterie. La pelouse en faisait pas forcément partie. Mais voilà, donc il y a plein de travaux autour de la Beaujoire que les supporters pourront découvrir vendredi soir.
Et alors, sur le sportif cette saison, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter selon toi ?
Il y a plein de travaux aussi à faire.
Ah oui.
Oui, forcément, parce que c'est un beau cadeau, la Coupe d'Europe, mais aussi c'est une belle épine dans le pied, parce qu'il faut être capable d'assurer à la fois en championnat, à la fois en Coupe d'Europe. D'autant plus que cette saison, vous le savez, elle est particulière. Quand on arrivera mi-novembre, il faudra déjà être bien positionné. Or, quand vous avez un calendrier très chargé, il faut avoir quasiment, peut-être pas deux équipes pour le FC Nantes, mais au moins une équipe et demie. Et là, il y a des postes qui sont en souffrance. Et puis, il y a encore des départs possibles. Et puis surtout, il y a eu que l'arrivée de la grosse arrivée, c'est celle de Sissoko. C'est 2 millions d'euros investis par le FC Nantes quand d'autres clubs en ont fait beaucoup plus. Donc je comprends que certains supporters puissent être inquiets. Et puis, il y a encore 3 semaines de mercato, que ce soit dans le sens des arrivées, mais surtout dans le sens des départs, puisqu'il y a quelques joueurs qui pourraient, pourquoi pas, bouger.
Oui, on va y revenir. Mais c'est le ring des supporters dans Rotten sans flamme. On donne donc la parole à Xavier, supporter nantais, qui nous rejoint. Salut Xavier.
Bonsoir à tous.
Voilà, t'as le bonsoir à tous déjà du mec inquiet.
Inquiet, ouais, un petit peu. Disons que je m'attends à une saison compliquée.
Ouais, dis-nous pourquoi.
Compliquée, parce que déjà, d'une part, Kolo Muani n'a pas été, pour moi, remplacé. Même si le petit Nguessan est intéressant. Mais le problème à Nantes, c'est qu'il n'y a pas de cellule de recrutement. Ça fait des années. Et, même moi, qui ne suis pas dans les arcanes du FC Nantes, je vois des joueurs... De par la télévision et par ce que je vois des fois sur les terrains, qui pourraient nous intéresser. Vous parliez de Fabien Santonze tout à l'heure, qui pourrait atterrir à Rennes ou à Lyon. Moi, ça fait 2 ans que je suis ce joueur. Hein, pourtant, je suis pas supporter du FC Metz. Et vous n'allez pas me dire qu'à Nantes, ils ne voient pas ça. Donc pour moi, soit c'est des incompétents. Enfin, pour moi, c'est des incompétents, tout simplement. Et puis notre ami Kita, je ne sais pas quand il va vouloir faire grandir le club, car là pour moi c'était un tremplin là, d'avoir gagné la Coupe de France et de se qualifier pour la Ligue Europa. C'était un tremplin. Moi je pensais qu'on allait avoir, alors je demande pas des superstars, mais des joueurs d'un certain calibre quoi, qui peuvent nous faire grandir. Et c'est pas le cas. Si Monsieur Kita croit qu'avec 3 ou 5 millions d'euros, il va aller dénicher des joueurs qui vont nous faire élever, il peut se mettre le doigt dans l'œil. Monsieur Kita ne fera jamais grandir le club. Là, pour moi, c'est un coup de chance qu'il a eu d'avoir gagné la Coupe de France. Il y a eu de la réussite, il y a eu des moments opportuns qu'on a su saisir. Mais il ne faut pas qu'il se trompe, Monsieur Kita.
Ouais. Mathieu, voilà. Comment tu vois la saison des Nantais ?
Pas simple. C'est une certitude parce que tu auras et la Coupe d'Europe et le championnat à jouer. Tu perds Kolo Muani. Très difficile à remplacer parce que c'est un profil atypique qui faisait beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, tu risques de perdre Ludovic Blas rapidement parce qu'on parlait du LOSC et là, vu que Lille vient de faire une grosse vente, je pense que ça va débloquer la situation. Comment le remplacer ? Pas simple aussi. Maintenant, tu vas sûrement avoir des moyens financiers. Il faut que les dirigeants investissent un petit peu sur un attaquant, peut-être un meneur de jeu, peut-être un système un peu différent. On parlait de Caramo, je crois que c'était hier. Voilà, il y a du travail. Après l'arrivée de Sissoko, c'est bien. Guessant devant, c'est plutôt intéressant. Tu gardes pour le moment Lafond, tu as fait prolonger Palois derrière, Chirivella au milieu, tu as quand même des bases solides. Maintenant, offensivement, quand tu perds déjà un joueur, voire 2 joueurs majeurs sur 3, parce que Simon a fait une belle saison, c'est sûr que c'est pas simple à remplacer.
Et alors la situation de Blas, Pierre-Yves, t'as des infos ? Qu'est-ce qui peut se passer ?
Bah, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel venant de Lille. Il n'y a pas d'offre pour Blas. Il n'y a pas d'offre non plus d'autres clubs pour le moment. C'est pas un premier choix, Ludovic Blas. Il y a ce match contre Lille qui vient là dans le calendrier. Est-ce que, en plus de la vente qu'évoquait Mathieu à l'instant, ça pourrait faire bouger les choses rapidement? Si des fois on s'aperçoit que Blas n'est pas sur la feuille de match vendredi, bah, on aura peut-être compris. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien. Il n'y a rien d'officiel. Ludovic Blas est nantais et peut-être que du côté d'Antoine Comboiré, il y a un moment où on va dire on est déjà le 9 août. Si moi, mon effectif, il bouge en plus, alors que dans maintenant 20 jours, on a le tirage au sort de l'Europa League, comment je fais pour avoir une équipe qui soit au niveau, non seulement, alors peut-être pas de l'Europa League, mais au moins du championnat. Il y a quand même 4 descentes cette année. Donc, il va y avoir des tensions. Il y a des tensions déjà autour de ce mercato parce que bah, les jours passent. Et on ne voit rien venir.
En même temps, il y a toujours des tensions à Nantes.
C'est ça. C'est et il ne faut pas oublier que cette victoire en Coupe de France, elle arrive alors que le FC Nantes est à sa place en championnat, c'est-à-dire en milieu de tableau,
oui.
Et que ça n'a pas été une. Voilà, c'est un cadeau, c'est un bonus.
Mmh. Merci Pierre-Yves.
Mais
à très vite.
De rien, et on va vite se reparler.
Et bien sûr.
Il va se passer plein de choses du côté de Nantes.
Avec plaisir. Salut Xavier, bonne saison.
Bonsoir à tous, merci.
À bientôt. Avant les paris, avant de jouer sur RMC, on file à Marseille, à l'aéroport de Marignane, donc, où se trouve Florent Germain, notre correspondant à Marseille, et où se trouvent surtout les supporters marseillais qui se sont regroupés pour acclamer l'arrivée d'Alexis Sanchez. Salut Flo.
Salut Jean-Louis, salut Mathieu, salut à tous.
Alors il y a du monde ?
Effectivement. Ouais, il y a du monde, hein. Il commence à y avoir du monde. Il va arriver sur les coups de 20h45. Décollage de Milan vers 20h, donc ça se met en place gentiment. Il y a des membres de la délégation de l'OM qui sont en train d'arriver. L'OM a joué le jeu, hein, faut le savoir, parce que on a aussi envie de montrer de belles images et d'accueillir celui qu'on appelle El Niño Maravilla dans de bonnes conditions, avec du monde, avec des fumigènes, avec des drapeaux, avec même un drapeau chilien qui a été déposé ici par les South Winners. Il y a des tambours, il y a des mégaphones. Ça va être très très chaud, ça va ressembler à des lendemains de grosses victoires, parce qu'au final, des recrues stars... déjà il n'y en a pas beaucoup à Marseille et surtout des recrues stars qui sont arrivées et qui ont été fêtées à Marseille, à Marignane, c'est assez rare. Et j'ai à mes côtés, pour la petite carte postale aussi, un journaliste chilien qui le suit depuis qu'il est à Barcelone, Alexis Sanchez. Il est allé à Londres pour Arsenal, il est allé à Manchester, il revient de Milan, il s'appelle Enzo parce que son papa a voulu l'appeler Enzo comme pour Enzo Francescoli, c'est ce qu'il vient de me dire. Enzo Oliveira qui est à mes côtés. Enzo, que tal? Bueno, en espagnol, que representa, piensas tu, Marseille para Alexis?
Marsella representa la pasión. Alexis hoy día es un futbolista que necesita cariño. En Inter me parece que no lo logró porque hizo mucho por el Inter, le dieron pocos minutos y no le dieron el cariño que él se merece. Entonces para eso significa Marsella, la pasión, el cariño.
Il a besoin de pasión, il a besoin d'être aimé. On lui a pas donné cette pasión, cet amour à Milan, donc il vient à Marseille pour ça. Una última palabra, Enzo, ¿cómo viene de fuerte? ¿Viene bien físicamente? ¿Va a aportar mucho a Marsella? ¿Y va a aportar beaucoup a l'OM? Alexis, ¿cómo il arrive? ¿Il est en forme?
Yo creo que hoy día Alexis llega en uno de los mejores momentos, primero de plenitud, pero algo que no había pasado hace mucho tiempo, físicamente bien. Hoy día Alexis, te lo puedo garantizar, que está 100% físicamente. Él solo está, como dijo en Italia, un león enjaulado, un león en gabbia, como se decía en italiano.
Un lion en cage. C'est un lion en cage, Alexis Sanchez, vous avez compris, hein, qui vient bien physiquement, qui vient dans sa plénitude. On a envie de croire Enzo sur parole, et ça donne confiance sûrement aux supporters marseillais. Et Enzo, perfecto. Nos vamos a ver mañana, parce que demain, il y a la conférence de presse de présentation d'Alexis Sanchez.
Dis-moi Flo, Enzo, c'est lui notre ami qui dit que Marseille c'est le meilleur club français, etc.
Enzo, effectivement.
Est-ce que j'ai vu passer? Ah bah il s'est assuré son installation à Marseille.
El periodista Jean-Louis que porque ha visto el video de ayer y ha visto la video d'hier où tu disais la vérité cuando decías la verdad que Marseille ha ganado la Champions, que Marseille es el mejor club de Francia, ¿no?
A ver, aquí hay que saber de fútbol. El fútbol no nació, con todo respeto, con Messi o con el Barcelona de Guardiola.
El fútbol n'est pas né avec Messi y Guardiola, rappelle Enzo.
Y el Marsella es el equipo más grande de Francia. Esa es la realidad. Por título, hay un título más importante en Europa. ¿Cuál es? La Champions. Lo tiene el Marsella.
Voilà. Il confirme, il pense que Marseille est le meilleur club français. Et je pense qu'Enzo va passer une très bonne soirée. Il est déjà adopté ici dans la cité.
Voilà,
tout va bien pour lui.
Merci Flo Germain.
Donc il y a du monde, on va suivre ça, on vous racontera ça dans l'after aussi.
Et bah c'est parfait, on reviendra vers toi dans l'after. Donc merci Flo Germain en direct de Marignane à l'aéroport à Marseille en attendant l'arrivée d'Alexis Sanchez. On joue tout de suite.
Winamax, les meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Payet, notre expert en paris sportif. Salut Christophe.
Salut Jean-Louis, salut Mathieu.
Pas été bien inspiré hier, hein, Christophe.
Ouais, bah, je sais pas de qui tu tenais tes infos, mais c'était quand même un peu un duo percé.
J'ai pas très bien enquêté. Ouais.
J'espère que vous avez regardé le match.
Oui, il y a eu pas mal d'occasions pour Metz, c'est vrai. Voilà. Mais bon, quand on a gagné 1-0.
Voilà. On s'intéresse aujourd'hui au PSV Eindhoven contre Monaco. On espère un scénario similaire à celui de l'année dernière en Ligue Europa, puisque Monaco avait concédé le nul à domicile en phase de poule et s'était imposé à Eindhoven. J'étais pas rassuré avant le match contre le PSV, j'étais pas rassuré après. Et puis j'ai été surpris de cette victoire de Monaco à Strasbourg. Donc je me dis que c'est peut-être un bon signe, surtout que Ben Yedder et Volland ne pourront pas être plus mauvais qu'ils l'ont été au match aller. Maripane Dissasi ont été excellents à Strasbourg, tout comme Nubel. Diop a retrouvé le sourire et sa place dans le 11 à Strasbourg, donc il peut faire du bien même en sortie de banc ce soir, et puis Mbolo peut aussi apporter quelque chose. Donc moi je vois Monaco légèrement au-dessus du PSV qui s'est imposé en championnat 4-1 contre un promu, mais ça c'était logique. Les cotes c'est 2,30 pour Eindhoven, 3 Monaco, 3,70 la victoire, le match nul pardon. Moi je partirais bien sur un nul, mais si ça doit pencher d'un côté, le N2 et les deux équipes marquent, Monaco ne perd pas, c'est 2,40. Et puis allez, le petit pari de folie, ça serait Monaco au tir au but, ça c'est coté à 11.
Très bien. Mathieu, tu vois Monaco gagner?
J'espère en tout cas.
Et on l'espère, ça c'est vrai.
Voilà. Alors, non, j'espère. Pour eux et pour le foot français surtout.
Moi je trouve que rien que la qualif de Monaco est pas mal. Hein.
Alors 2-10 pour la qualif de Monaco, c'est, pas mal, hein. C'est intéressant effectivement. C'est vrai que le PSV est favori. Et puis bah, si Ben Yedder retrouve le chemin défilé, ça sera tout bonus pour l'ASM. Il est coté à 2,40.
On peut faire qualif et buteur?
Non, parce que la qualif, on ne peut pas le mettre dans un my match. Ouais, en revanche, on peut faire Monaco ne perd pas et Ben Yedder marque. Ça permet de tripler la mise. Ça peut être un pari intéressant aussi.
Très bien, on retient ça. Merci Christophe. Tous
bonne
les
soirée,
paris
messieurs,
sur
bon
rmcsport.fr.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'est une sorte de 32e de finale de Coupe de France. Le favori des quiz de Rotten sans flamme face au petit poussé. C'est Bodmer contre Courbis dans une seconde. Je vous laisse deviner qui est qui. C'est dans une seconde donc, avec des places à gagner pour le match de Nice face à Strasbourg. A tout de suite dans Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
19h46 sur RMC, c'est Rotten sans flamme avec Mathieu Bodmer jusqu'à 20h. Et la grande soirée Ligue des Champions à partir de 20h dans l'after avec Monaco, PSV Eindhoven. Mais juste avant, on joue.
Rotten contre le reste du monde.
Alors Mathieu, t'as assuré pendant donc ces deux jours. À partir de demain, c'est coach Courbis qui sera à ta place dans Rotten sans flamme. Et coach est déjà avec nous pour faire le quiz. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Coach. Salut.
Alors, j'ai présenté ça un peu comme un 32e de Coupe de France. Hein. Tu me pardonneras, coach. Hein.
Bah,
mais Mathieu, il est très fort en quiz. Ouais, mais bon, après, le club amateur, bon parfois, aussi. Il passe. Ouais, hein.
Bon, bah écoute, ça va, qu'est-ce que tu veux faire hein.
T'en as fait des exploits dans ta carrière.
Bah, oui, mais bon, là, ça va trop dur.
Mais t'inquiète pas. Comme j'ai une énorme bienveillance envers toi, il y a des questions qui pourraient t'aider un peu. C'est le principe du quiz aussi. Bah, hein,
ça,
voilà.
Ça, c'est gentil, c'est bientôt mon anniversaire.
Et voilà, voilà. Alors, à gagner, et ça, c'est très sérieux, deux places pour Nice-Strasbourg. Soit pour Adil, soit pour Hugo qui sont avec nous. Salut à tous les deux.
Salut. Bonsoir.
Alors Adil,
salut.
Tu veux faire équipe avec Mathieu ou avec coach?
Il y en a un qui a fait partie de nos couleurs, donc on va choisir Mathieu.
Ouais, bien joué. Hugo, donc t'es avec Roland.
Ouais, ouais.
Mais ouais, c'est sûr. Tant pis, Hugo. Je suis vraiment désolé de te faire gagner.
Non, mais Hugo, déjà. Bah oui, voilà, déjà, Roland, il peut te faire gagner. Et tu peux aller te la chercher aussi, la victoire. Attention.
Non, carrément.
Alors, pour les supporters niçois, là, que vous êtes tous les deux, vous allez être contents. C'est un quiz autour de Monaco-PSV. Enfin, des PSV Monaco, des deux clubs, etc. Vous êtes contents? Un quiz autour de Monaco.
Ah ouais, super.
Alors, on y va. Première question flash. Je pense que ça va aller vite. Je vous emmène donc à l'une des victoires de Monaco à Eindhoven. C'était en 2003. Monaco gagne 2-1. Donnez-moi le premier passeur décisif monégasque.
Rotten.
Eh ouais, là, forcément. Mathieu, c'était Jérôme Rotten.
Voilà, ah, 2003.
J'étais obligé. Le centre pour Morientes, voilà, forcément. Jérôme qui nous aurait dit, s'il avait parlé du match de ce soir, c'est pas facile de gagner au Philippe Stadion, puisqu'il le dit à chaque fois, bien sûr. Donc ça fait 1-0 pour l'équipe Bodmer. Mais c'est pas terminé. Lors de la saison suivante, c'est toujours une question flash, hein, est-ce que vous pouvez me donner, puisque lors de la saison suivante, il y a encore eu un PSV Monaco, et là le PSV s'est imposé, c'était en huitième de Ligue des Champions. Est-ce que vous pouvez me donner, c'était l'année suivante de la fameuse épopée, de la finale, une des recrues monégasques,
oula,
qui n'était donc pas là la saison précédente.
Adebayor.
Adebayor, il n'était pas là avant ?
Non.
Alors c'est bon,
Mathieu.
Eh ouais, très bien. Bon, alors il y en avait d'autres, hein. Il y avait Maicon, Plazil, Calon, Chevanton, Saviola. Roland, je te sens un peu dans le dur. Donc on va faire une question.
Ah ouais, mais là, je cache mon jeu, t'inquiète.
Eh, je sais. Tu vas trop faire avec cette question. C'est abusé. Alors les questions abusées, normalement, favorisent Jérôme Rotten. Là, elles vont favoriser Coach Courbis. D'accord ? Mathieu, t'acceptes ça quand même ?
Ouais,
le privilège de l'expérience,
avec courage
quand même. Voilà. Alors, du coup, je vous emmène à un match qui a marqué l'histoire de la D1. C'était en août 98, un certain Marseille-Montpellier. Marseille a gagné 5-4 en étant mené 4-0. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel est le premier joueur qui est sorti pour Marseille ?
Qui est sorti pour Marseille ?
Oui. Pour Marseille.
Bah, vas-y, dis-nous, coach.
Gourvenec.
Bien joué, coach. Ça fait du bien. Je sais pas qui était coach de Marseille à l'époque, qui a fait ce changement. Mais coach, bravo.
T'allais dire des buteurs.
Franchement, non, bravo coach. Ça fait 2-1 pour l'équipe Bonne Mère.
J'aurais pu te dire l'autre aussi.
Eh oui.
C'était Daniel, bravo.
Pour Christophe Dugarry. Mm. Voilà, c'est ça. Dugarry qui n'était pas titulaire sur ce match. Hein.
Bah non, c'était un petit peu accroché avant.
Je sais, c'est pour ça. Mais bon, il fait une bonne rentrée. Hein.
Bah oui, comme quoi, j'avais dit avant que tu étais titulaire, mais pour la deuxième partie du match.
Ah, c'est ça. Mais combien il y a d'entraîneurs de joueurs qui ont dû t'insulter en entendant cette phrase?
Ben oui, mais que tu veux. S'ils avaient lu dans mon passé, je te dirais tout, il y aurait eu match nul au niveau des insultes.
Bon, bref, bon, là on parle en général, hein, ça concerne pas Dugarry du tout.
Bah, évidemment.
Alors ça fait 2-1 pour l'équipe Bonne Mère. Attention, c'est quoi mon jeu préféré, Mathieu? Ce sont les charades. Bien sûr. Alors attention, je vous rappelle qu'on est autour de Monaco PSV, hein, bien sûr. Mon premier est une ligne idéale autour de laquelle on peut faire une rotation. Avec mon deuxième, on peut voler. Quand on a
voler avec des ailes.
Et voilà.
Ouais, d'accord.
Par exemple, quand on a un joueur expulsé dans un match, on joue à mon troisième et mon quatrième est le contraire de debout. Mon tout devrait être titulaire en défense centrale. Et titulaire en défense centrale. Ah oui, bien joué, coach.
Le compteur de debout, quand même, tu me prends pour plus con que je suis. Quand même.
Ouais, j'ai rien dit. 2-2, donc. Mon premier est une ligne idéale pour faire une rotation, c'est l'axe. Mon deuxième peut voler les ailes, Axel. Quand on a un expulsé, on joue à 10. Axel, 10, assis, donc.
Pas mal.
Bien joué, coach, ça fait 2-2.
Ben ouais,
l'exploit est en route. Hein.
Ben oui, si tu es assis, tu dors pas.
Attention, kicker l'intrus. Édouard Cissé, là il faut trouver un intrus dans la liste que je donne. Édouard Cissé, Fernando Morientes, Myron Boidou, Wissam Ben Yedder, Sofiane Diop, Axel Disasi. Il y a un intrus là-dedans.
Tu peux dire le premier, s'il te plaît ?
Édouard Cissé. Ensuite Morientes, Boidou, Ben Yedder, Diop, Disasi. Donc ça concerne les PSV Monaco. Vous en doutez. Mathieu, la ligne a coupé ?
Non, je suis en train de réfléchir.
Donc, si c'est Morientes, Boidou, Ben Yedder, Diop, Disasi.
C'est un joueur qui n'a jamais marqué, c'est
Mathieu qui a raison. Ben Yedder, effectivement, c'est le seul qui n'a pas marqué dans un PSV Monaco.
Ah bon, mais ce soir.
Ah oui, ce soir, oui. Ça ne tiendra pas jusqu'à ce soir, cette question. Ça fait 3-2. C'est un beau match, en tout cas. Hein. Moi, je me régale. Hein.
Ouais,
attention.
Compliqué.
Quoi qu'il kiff, il faut trouver le. Ah bah c'est compliqué, oui, bien sûr. Il faut trouver le point commun entre tous ces joueurs. Ronald Koeman, Philippe Cocu, Ola Toivonen, non, Van Nistelrooy, Luc De Jong, Kezman, Venegor Offeselink et même Marc Van Bommel. Je peux vous rajouter là-dedans.
Ils ont joué au PSV et gagné l'Europa League.
Alors ils ont effectivement tous joué au PSV, mais c'est pas ça leur point commun.
PSV, non. Tu as dit qui ? Koeman au démarrage ?
Alors j'ai dit Koeman, Cocu, Van Nistelrooy, De Jong, Toivonen, Kezman aussi.
De Jong lequel ?
Ils ont tous
Luc De Jong.
Planté contre des clubs français, non ?
Non, c'est pas ça. Bon, vous l'avez pas ?
Ils sont tous hollandais.
Hey.
Ils ils n'ont pas fini premier buteur du PSV.
Pas Kejman.
Ah, je vais la, je vais
champion des Pays-Bas.
Non, je vais l'accorder à coach parce qu'il n'était pas loin quand même. Ils font partie du top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire du PSV.
Ah ouais.
C'est, wow. C'était un peu ce qu'il a dit.
Okay. Ouais, meilleur buteur du championnat, il a dit.
Ouais, bon, c'est à peu près, mais bon.
Je ne peux pas dire meilleur buteur du championnat d'à côté, non.
Et oui, oui, c'est vrai aussi. Bon, ça fait 3-3 et c'est le moment d'une question abusée.
Franchement, c'est abusé.
Non, je reviens à ce fameux match là qui me reste dans les mémoires, le fameux 5-4 du 22 août Marseille-Montpellier. Donnez-moi un des buteurs montpelliérains.
Bakayoko.
Bakayoko.
Ah bah coach, allez vite hein. 4-3
pour le Robert et José pour les deux autres.
Eh oui, bien sûr, c'était eux. Alors là, ça fait 4-3 pour l'équipe Courbis. Tiens, Hugo, là, Roland, il est en train de te fermer ton caquet.
Ah, il est en train de mater, ouais.
Eh ouais.
On a une petite différence d'âge, mais effectivement, il est en train de me souffler, là.
Attention.
Mais non, t'inquiète, c'est pas fini.
J'ai un kické l'intrus, tout de suite.
Ah,
il peut y avoir égalisation. Kické l'intrus entre Victor Ikpeba, Yuri Djorkaeff, Radamel Falcao, Delionis, Thierry Henry, David Trezeguet, Shaban Inonda et Wissam Ben Yedder. Il y a un intrus là-dedans. Ikpeba, Djorkaeff, Falcao, Onis, Henri, Trezeguet, Nonda, Ben Yedder.
Ikpeba, il n'a jamais été meilleur buteur du championnat.
Non, c'est pas ça, Adil. Bon, je vous laisse un peu de réflexion. Bon, vous avez compris quand même que c'est autour de oui, des buteurs.
Oui. Ben oui,
ils en ont mis quelques-uns, ceux-là. Ikpeba, Djorkaeff, Falcao, Onis, Henri, Trezeguet, Nonda, Ben Yedder. Ah, vous l'avez pas.
C'est pas une question de triplé ou de doublé.
Non. Non, c'est une question de. Il y en a un là-dedans. On va donner le point comme ça. Il y en a un là-dedans qui n'est pas dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de Monaco.
Ah oui.
C'est qui? Une réponse. Donc Nonda est donnée. Non.
Henri.
Henri. Oui, qui a dit Henri?
Moi, Hugo.
Hugo, bah ça veut dire qu'il va y avoir une victoire pour l'équipe Courbis, parce que c'est bien Thierry Henry, qui n'est pas dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de Monaco, dans l'histoire.
Ah bah ça, bravo, j'aurais pas deviné.
Bah, je t'ai dit qu'il était très très jeune, donc il avait peut-être pas eu le temps.
Victoire d'Hugo, juste pour le plaisir, ma dernière question abusée, c'était qui était l'arbitre de Marseille-Montpellier?
Sars.
Alain Sars. Bien joué, coach. Tu maîtrises bien ce match, hein.
Bah, écoute, je l'ai revu pendant le confinement 3 fois.
Eh, voilà, c'est ça. Et voilà. Grâce au confinement, du coup.
Et chaque fois, on gagne 5 à 4, et pourtant, à la fin, chaque fois, je tremble.
Voilà. Et chaque fois, tu dis la même phrase à Louis-Nicolas.
Eh oui, chaque fois.
Oui. Eh oui, c'est magnifique. Hugo, on t'envoie les 2 places, en tout cas, pour Nice-Strasbourg. Bravo à toi. Et, bah, écoute, le quiz reviendra. Il y aura encore des places de match à gagner demain à 19h45. L'after arrive tout de suite autour de PSV Eindhoven Monaco, l'after avec coach Courbis et Nico Villas qui est en train de s'installer et qui lui aussi est de retour de vacances. Il est bronzé, c'est impressionnant. Hein. Salut Nico.
Salut, ça va? Ah bah ça va, excuse-moi, tout le monde n'a pas les mêmes parties en Corse. Hein, donc
je crois que tu prends pas le soleil pareil surtout.
Bah, c'est pas impossible. Franchement, j'ai pas vraiment beaucoup pris le soleil. Je fais attention à ma peau, figure-toi. J'ai pas envie d'avoir l'air plus vieux que mon âge, comme toi, tu vois. C'est le truc.
Ah oui, c'est ça, si tu veux.
Tu l'as dit, Monaco qui joue une place en barrage de Ligue des Champions, match à Eindhoven qu'on va suivre avec Roland, bien entendu, avec Arnaud Valadon, Maxime Tilliette également, qui seront au Philips Stadion à Eindhoven. Un partout lors du match aller. Tiens, 2 petits débats qui vous attendent dans l'avant-match, coup d'envoi 20h30 hein, de ce 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Est-ce que Monaco est favori? Parce que c'est ce qu'a dit Philippe Clément, ouais. Je crois que vous en avez parlé d'ailleurs.
Exactement.
Également.
Mathieu disait non. Hein.
Ah oui?
Il n'y avait pas de favori.
Tu vas voir, Roland, il a un avis assez tranché également là-dessus.
D'accord.
Sur les déclarations de Philippe Clément. Et puis, on fera un petit point sur le mercato également, et notamment le dossier de la charnière centrale. On en parlait avec Maxime également, notre correspondant du côté de la Côte d'Azur, puisqu'il y a pas mal de mouvements, ça bruise pas mal en coulisses. Et Philippe Clément qui pourra avoir chaud d'ailleurs, hein, si Monaco se qualifie pas. On en reparlera dans les prochains jours. Certainement, 19h57, l'after arrive juste après ça. Merci Jean-Louis.
Et on est de retour demain. Mathieu, merci. Bonne soirée. Et on se retrouve à partir de la semaine prochaine dans Rotten sans flamme. Demain, coach Courbis sera là, car Rotten sans flamme est de retour. Jérôme est en vacances. Mais la Dream Team est là. Rendez-vous demain, 18h. Ciao.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.